Que de fois j'ai vu l'empereur en rêve confier Meissonier, hanté par le souvenir d'un Napoléon. Meissonier est né en 1815, donc au lendemain de Waterloo. Il est habité par le mal du siècle, bien décrit par Musset, et en peignant Napoléon, il devient littéralement acteur de la légende, s'incarnant au sein de l'épopée. Ainsi que le disait lui-même, il faut croire à la réalité des choses pour s'y incarner et vivre dans un sujet avec ses héros. Il faut respirer l'air de son personnage, vivre dans son époque. Il connaît l'épopée napoléonienne, il a lu Thiers, il en conservait les volumes sur sa table de chevet, on l'a retrouvé après sa mort. Et il décide pour la première fois, alors qu'il se confronte, alors qu'il est déjà un peintre connu, à la figure napoléonienne, il décide de peindre un des moments les plus tragiques, les plus touchants, la campagne de France, 1814. Pourquoi ce moment ? Parce que ces quelques mois d'une campagne prestigieuse bénéficient d'une forte intensité dramatique. Le génie militaire de l'empereur, l'homme seul, confronté à une situation désespérée, situation qu'avait bien retracée Thiers en 1860, c'est-à-dire au moment même où Meissonier commence à vouloir peindre Napoléon, Thiers publie l'histoire du consulat et de l'Empire, et notamment le moment consacré à la campagne de France. Et Thiers écrit ceci. L'inflexible génie de Napoléon n'était point abattu. Il conserva donc une fermeté dont peu d'hommes de guerre ont donné l'exemple, et peut-être aucun. Il lui restait son inépuisable génie, l'orgueil de son immense fortune, et n'était pas troublé sans doute aussi, parce que même dans sa chute, il entrevoyait une gloire ineffaçable. Ainsi donc, la campagne de France est certes un tableau, mais c'est un tableau qu'on doit lire aussi bien avec le passé napoléonien qu'avec les lectures des contemporains, et puis également avec l'histoire et les défaites françaises qui ont pu se succéder depuis 1864. Et donc je traiterai ce tableau à travers deux parties, d'abord le crépuscule de la gloire, et puis l'entrée dans la légende, parce que c'est la particularité de ce tableau de montrer simultanément la chute d'un empire et l'avènement d'une épopée. Dans une première partie, Meissonier qui peint Napoléon, c'est vraiment le grand homme chez Lilliput. En effet, Meissonier était caractéristique, était connu pour des petits tableaux. Daumier se moquait assez de la petitesse de ces tableaux qui faisait que tous les gens qui voyaient un Meissonier dans un salon devaient se presser avec la loupe. Meissonier était un peintre, de ce qu'on appelait le peintre d'enjambe, donc dans la hiérarchisation des tableaux de l'époque. Il peignait, c'était un peintre à la flamande ou à l'hollandaise, il peignait des scènes intimes, des musiciens, des bourgeois, etc., des joueurs d'échecs. Il aimait les scènes d'histoire, mais d'histoire ancienne, les hommes sous le temps de Louis XIII, de Louis XV, etc. Il ne s'était essayé qu'une fois à la peinture d'histoire, une peinture qu'aujourd'hui, effectivement, on tend à réévaluer, mais qui, à l'époque, avait effectivement, pour des raisons politiques évidentes, n'avait pas suscité un enthousiasme extraordinaire. Meissonier était à Paris au moment de juin 1948. Il avait peint La Barricade, qui s'appelle aussi parfois Souvenir de la guerre civile, un tableau dénué de tout héroïsme. On est loin de Delacroix, qui est aussi une autre figure de prise de barricade, la liberté guidant le peuple. Ici, on voit une scène de prise de barricade auquel Meissonier avait lui-même assisté, dans une rue qui portait un nom quasiment éponyme, rue de la Mortellerie. Et on voit effectivement la fin de cette barricade, on voit les derniers pavés, et les défenseurs qui ont été exécutés. Meissonier avait rencontré après les hommes de la garde nationale qui avaient tiré, de l'armée qui avait tiré contre les manifestants, et un des officiers avait dit effectivement, dans ce tas-là, il ne devait pas y avoir un quart d'innocent. Et cette formule avait profondément impressionné Meissonier, qui était pourtant libéral, certes, mais d'abord conservateur. Et on voit ce paysage glacé, dénué de tout mouvement, avec les couleurs tricolores qui ressortent, le rouge des pantalons, le bleu des vestes, le bleu des vestes et puis le blanc des chemises, mais effectivement un tricolore sanglant. Et à partir de ce tableau, un Meissonier commence à se faire le peintre de la tragédie nationale, peintre de la tragédie nationale qu'on retrouve avec 1814, une quinzaine d'années plus tard. Et Meissonier va travailler à 1814 comme véritablement un historien. C'est un travailleur acharné qui devait non seulement vivre la scène, la sentir, mais en connaître les moindres détails. Et donc il part à la recherche de ses sources. Alors c'était une habitude chez lui, il se rendait, même avant son mariage, chez les brocanteurs du temple. On avait dit de Meissonier que quand il s'était marié, sa dot, c'était effectivement tout ce bric-à-brac qu'il avait accumulé depuis qu'il avait commencé à faire de la peinture. Donc il avait accumulé des défroques, un arsenal d'armes, etc. Il se met effectivement à accumuler des armes de l'Empire, des uniformes de l'Empire, mais il veut effectivement du vrai pour peindre. Il ne veut pas simplement des représentations ou des succès d'années. Et il demande au Musée des Souverains la redingote grise de Napoléon. Ça lui est refusé, il en est désespéré. À un moment, il pense même abandonner la toile uniquement pour cette raison. Il se fait prêter par le prince Napoléon, dont il était assez proche, une selle de sa collection. Le cheval blanc que vous voyez, alors c'est vrai que Napoléon, pendant la campagne de France, montait un cheval blanc, mais le cheval blanc que vous voyez provient des écuries impériales, alors que Meissonier lui-même avait, dans sa demeure de Poissy, une cavalerie assez importante, parce que d'une part lui-même, il était cavalier, mais surtout pour peindre les chevaux, qui était une de ses grandes préoccupations. La peinture est animée de multiples anecdotes qu'il recueille auprès d'anciens généraux, comme le général de Mortemart, ou auprès de sa femme, qui était dame d'honneur, mais également auprès de gens moins élevés dans la hiérarchie, le valet de chambre de Napoléon, ou un homme qui était proche de du roi Joseph, qui n'avait pas pu servir pour différentes raisons dans les armées impériales, mais qui avait beaucoup parlé avec les soldats, et qui était effectivement inépuisable en anecdotes, qui s'appelait Pilardon, donc on ne savait pas vraiment ce qu'il racontait, c'était des choses vécues ou de la mythomanie, mais effectivement il était inépuisable en anecdotes vivantes. Et effectivement, Meissonier devient littéralement Napoléon. Non seulement il est habité par son tableau, on a dit il rêvait de Napoléon, il le fantasmait, etc. Mais il devient Napoléon au sens propre, puisque, alors qu'il avait un modèle pour figurer Napoléon, un visiteur dans son atelier de Poissy lui fit remarquer que les cuisses de son Napoléon de 1814 ne ressemblent pas aux cuisses du vrai. Alors reconnu, effectivement, soit par des témoins oculaires, qui avaient bien observé les cuisses de Napoléon, qui apparemment fascinaient les contemporains, soit par des tableaux. Et donc Meissonier décide, dans son souci de perfection, son Napoléon était à l'époque bien avancé, il repeint tout son Napoléon de zéro, en prenant comme modèle lui-même, c'est-à-dire qu'il se monte sur un chevalet, sur la selle prêtée par le prince impérial. Il se revêt d'une redingote grise qui n'était pas celle du Musée des Souverains, mais qu'il avait fait reconstituer à son grand dépit. Et il se peint face à une glace, à une psyché, et il peint comme ça son Napoléon. Ce qui explique, alors on ne le voit pas, parce que c'est une scène de bataille de petite taille, je vous ai mis les dimensions de l'œuvre, mais effectivement, quand on se rapproche beaucoup, quand on est Orsay, on voit le regard de biais de Napoléon, qui est dû, alors pas tellement parce qu'il regarde le spectateur, mais c'est dû au contexte dans la réalisation, c'était Meissonier se regardant lui-même dans le regard, peignant en Napoléon. Également, il veut de la neige pour peindre, comme il disait, il faut les tons convenables, il fallait peindre ceci sous un ciel gris, sur un ciel gris et sur un fond de neige. Or, malheureusement, quand il se met à sa toile au cours de l'année 1862, l'hiver est doux dans les environs de Paris, il ne neige pas, donc il attend la neige, c'est-à-dire l'hiver suivant, heureusement, qui tombe, et effectivement, quand on annonce effectivement cette neige qui tombe dans sa demeure de Poissy, il fait sortir toute sa domesticité, tous ses familiers, pour ravager le jardin. Apparemment, alors son fils raconte ça dans ses mémoires, au grand désespoir de sa femme, puisqu'il avait une très belle propriété, et il fait passer des charrettes, etc., pour rendre cet effet de neige sale, fondue, dans cette espèce de terre désespérée, stérile, pour peindre réellement ce paysage ravagé. Et il peint sous la neige, c'est-à-dire que il organise tout un système de chevalation, puisqu'il peint à cheval. Alors il fallait faire tenir le cheval tranquille dans un froid glacial pendant plusieurs heures. Alors ça, je ne sais pas comment c'était réalisé, les mémoires du temps ne le disent pas. En tout cas, il peint à cheval sous la neige. Il paraît effectivement que c'est ses enfants, sa famille qui le suppliaient de descendre parce que ses pieds commençaient à geler dans les étriers. Donc souvent, effectivement, on confond cette toile avec la campagne de Russie. Quand j'étais à Orsay en train de prendre des photos, beaucoup de gens qui passaient mais qui ne regardaient pas le titre de la toile disaient « Ah, c'est la campagne de Russie ». Mais Meissonier l'a littéralement vécu puisqu'il a failli, effectivement, quasiment pas mourir gelé, mais il a vécu le froid qu'il peint sur cette toile. Et c'était effectivement une volonté personnelle. Il ne voulait pas simplement peindre de l'extérieur, il voulait vivre ses personnages. Meissonier également n'ose se confronter à Napoléon qu'après avoir vécu une bataille lui-même, qu'après avoir été sur un champ de bataille. Alors, il s'était un peintre célèbre, hein, un peintre qu'on avait appelé académique, officiel, etc. En 1855, un de ses tableaux, la Rix, fait l'attrait, hein, attire les visiteurs royaux, hein, le couple britannique, à tel point que Napoléon III offre la Rix, en fait l'acquisition, et offre ce tableau au mari de la reine Victoria. Et pour cette raison, hein, Napoléon III invite Meissonnier à suivre l'armée au moment de la campagne d'Italie. Meissonnier en garde un souvenir à la fois la très douloureux du champ de bataille. Il décrit la présence des morts. C'est la raison pour laquelle dans beaucoup de ses peintures de bataille, les morts ne sont pas présents, ou lorsqu'il les peint, il n'arrive pas à les peindre. Les morts sont toujours suggérés, par exemple ici, avec, dans le coin, là, avec un objet abandonné. La référence aux morts, hein, est toujours véritablement implicite. Il n'arrive pas à peindre les cadavres. Et c'est certainement dû à sa propre expérience du champ de bataille de Solferino dans ses souvenirs. Il y a un rappel justement de la douleur de voir ces hommes jeunes, hein, qu'ils soient français ou autrichiens, sur le champ de bataille. Et notamment, il décrit, hein, de façon très douloureuse le dépouillement des cadavres. Le fait que les cadavres étaient dépouillés par les survivants. Donc véritablement, c'est d'une expérience militaire qu'il ressort son 1814. En même temps, ce 1814 devait être inscrit dans tout un cycle de tableaux napoléoniens. Deux seulement ont été réalisés, mais c'est ce projet qui encadre la campagne de France. Alors, la campagne de France devait être le quatrième. Il est en fait le premier réalisé, il paraît en 1864, hein, lors du salon. Il est de nouveau présenté à l'exposition universelle à Paris en 1867. Il n'empêche que dans ce cycle napoléonien, la campagne de France devait être l'avant-dernier. Le premier, c'était 1796, hein, l'aube de Castiglione, que Meissonnier laisse inachevée. C'est la toile qui reste sur son chevalet au moment de sa mort, en 1890. Il décrit 1796 comme le premier rayon de la fortune et de la gloire. Bonaparte est précédé de cavaliers, suivi de son état-major. Son visage est jeune, illuminé par le soleil qui se lève. Il passe au galop devant ses troupes qui l'acclament. Et donc, effectivement, on le voit, toute la scène en mouvement, et Napoléon lui-même qui est en mouvement. 1807, Friedland, qui est la deuxième toile à être achevée, mais sur laquelle il va passer plus de 10 ans. Il décrit dans ses souvenirs la douleur de cette production. Quand il a fini cette toile, il avait un pouce, il commençait à être paralysé. Et comme il le faisait remarquer, quand un peintre devient aveugle, il peut toujours dicter. Quand un écrivain devient aveugle, il peut toujours dicter. Quand un peintre devient paralysé, il ne peut plus peindre. Et donc, il est arrivé à peindre Friedland avec, effectivement, des douleurs physiques extraordinaires, puisqu'il pouvait passer 10 heures, 12 heures, 13 heures par jour devant son chevalet. Et 1807, c'est l'apogée de la gloire. Il a voulu décrire l'adoration des soldats pour le grand capitaine. Napoléon est immobile. C'est désormais l'armée qui est en mouvement. De même, effectivement, que Napoléon est devenu le pivot de la troupe, il est devenu le pivot de l'Europe, autour de qui le destin des nations se meuve. Et on voit effectivement l'impossibilité de représenter la mort, simplement suggérée par ces champs, vous voyez, enfin les champs de blé, un fauché, qui était pour lui la seule mention des horreurs de la guerre. Troisième toile qui aurait dû être peinte, c'était Erfurt. Meissonnier avait appris, toujours en parlant, que lors d'un congrès, chaque souverain était annoncé par un héros qui annonçait des titres effectivement interminables, hein, des souverains européens. Et tous les souverains étaient rassemblés. Et à ce moment-là, il y avait un moment de silence. Et les héros annonçaient seulement l'empereur. Et comme le signale Meissonnier, il n'y avait plus que lui. Puis 1814, Meissonnier, à la campagne de France, décrit ainsi Napoléon marche en tête de son état-major. Et enfin 1815, on voyait Napoléon assis sur le bel air au fond, avec derrière lui des sentinelles anglaises. Hors de ces cinq actes de l'épopée napoléonienne, il existe également deux autres tableaux, 1815, qui sont hors, hein, de ce cycle initial. 1815, longue file de cuirassiers alignée jusqu'à l'horizon, et 1806, une de ses dernières toiles exposées au salon, qui n'avait pas obtenu un appui extraordinaire, enfin, qui n'avait pas obtenu un accueil extraordinaire. Octobre 1806, l'empereur à cheval sur une légère hauteur, a le visage tendu vers la bataille qui se dessine derrière la charge de cuirassiers. On avait accusé cette toile de montrer un Napoléon trop statique. Et on voit toujours, hein, la difficulté de Meissonnier à représenter le cadavre. Les critiques s'étaient notamment acharnées, c'est le cas de le dire, sur le caractère non représentatif, hein, le caractère, la mauvaise réalisation de ce mort au premier plan. Donc 1814, devait reste, alors on peut mettre peut-être en arrière, reste considéré encore comme un chef-d'œuvre de Meissonier. Hein, si vous faites l'essai, vous tapez Meissonier sur Google, et c'est véritablement 1814 qui apparaît représenté, avec pour héros principal Napoléon. Vous l'avez compris, Meissonier par rapport à Napoléon n'était pas du tout objectif, il n'avait pas le recul critique, hein, voire même suspicieux de Thiers, qui estimait que dans la campagne de 1814, on voit l'aboutissement, hein, du pouvoir absolu qui aboutit à une inéluctable défaite, et pour l'homme et pour la nation. Au contraire, Meissonier avait une admiration quasi immodérée pour Napoléon. Il ne supportait pas les critiques. Lorsque, sous le Second Empire, il peut y avoir des regards critiques sur la figure du premier Napoléon, il prend immédiatement la plume pour récuser ses appréciations. Donc c'est vraiment un pinceau militant. C'est par un pinceau militant qu'il décrit cette figure napoléonienne. Et on voit effectivement ce Napoléon qui marche en tête. C'est vraiment le Napoléon de la légende. Ce n'est plus du tout effectivement le Napoléon du sacre ou le Napoléon majesté. C'est le Napoléon dans la redingote grise, hein, reprenant la silhouette du Napoléon qui avait été placé par la monarchie de Juillet au sommet de la colonne Vendôme. C'est le petit caporal qui effectivement a la main dans la redingote, monté effectivement sur son cheval et qui conduit l'armée. Alors le cheval a fait l'objet de beaucoup d'études de la part de Meissonier, qui lui-même était excellent cavalier, qui a vu une adoration pour les chevaux dans ses souvenirs. Il parle à plusieurs reprises de sa jument Cunningham, il ne parle quasiment jamais de sa femme, de ses enfants, mais sa jument Cunningham fait l'objet d'un amour immodéré. C'est la jument qu'il montait sur le champ de bataille de Solferino, qu'il a réussi à sauver de l'abattoir en 1871. Et effectivement, Meissonier adorait les chevaux, il voulait saisir le mouvement des chevaux. Il avait installé dans sa propriété un système de chemin de fer pour suivre justement le mouvement d'un cheval au galop. Et donc il était sur une petite charrette, sur un système de voies ferrées, à peindre pendant que le cheval est au galop. Il paraît qu'un jour il avait tellement peint pendant si longtemps que le cheval au galop était devenu fourbu. Pour lui, il estimait qu'il avait réussi à peindre un cheval au galop après effectivement le développement de la photographie, lorsque notamment les Américains vont pouvoir prendre un cheval au galop, et il va à la fin de sa vie faire un système de troc où un Américain va lui proposer, il avait refusé de faire le portrait d'un Américain parce qu'à l'époque il n'avait plus besoin d'argent, ses toiles se vendaient très bien, et l'Américain va lui échanger toute une série de photographies d'animaux en mouvement, notamment de chevaux, contre son portrait, et Meissonier va à ce moment-là accepter de faire le portrait de cet Américain. Et donc l'allure du cheval sur ce tableau est indécise et volontairement. Beaucoup de critiques à l'époque ont montré, voilà, Meissonier, peintre de genre, s'essaye à la peinture de bataille, mais il n'a pas réussi, notamment parce qu'il n'a pas restitué l'allure d'un cheval en mouvement. On ne sait pas trop si c'est du pas, du trot. Alors le galop, à l'époque, Meissonier était quelqu'un de très modeste, il disait qu'il ne pouvait pas encore affronter le galop. Donc, mais malgré tout, l'allure reste indécise. Alors, la plupart des observateurs pensaient que le cheval de Napoléon allait à l'amble, ce qui était la réalité historique. L'amble est un mouvement du trot tout à fait particulier. Mais il n'empêche, ça donne cette espèce un peu déséquilibrée du cheval. Mais il faut savoir que Meissonier, peintre de l'exactitude, hein, quasi fanatique, utilisait toujours ces détails de façon signifiante, significative. Et s'il a choisi de respecter, hein, la vérité historique, un cheval à l'amble, c'est aussi pour des raisons, pour donner du sens à sa peinture, pour montrer le déséquilibre d'un régime qui se manifestait par un manque d'assise, si vous voulez. Certes, c'est une statue quasi équestre, hein, avec un Napoléon très erratique, hein, très immobile, non affaissé, quand on voit effectivement l'image, hein, du portrait du général endormi derrière, hein, complètement affaissé. Le Napoléon est extrêmement droit, extrêmement erratique. Et le basculement, enfin l'inquiétude, vient justement de la position du cheval, à la fois très droit dans son port de tête et en même temps très déséquilibré dans son allure. Et en même temps, on voit effectivement dans cette statue équestre, hein, à demi esquissée, hein, pour le buste, mais non pour le cheval, d'une certaine manière, la fin de l'ancien emblème du souverain conquérant, du roi de guerre, qui avait voulu pleinement incarner, pleinement relever Napoléon contre les derniers Bourbons. Également, Meissonier, le paysage est très important. Meissonier peint une neige sale, une neige en train de fondre, hein, une neige qui a été défoncée, ravagée par le passage des trains d'artillerie, un ciel lourd, un sol lourd, un ciel bas, une pluie glacée, hein, une espèce de grisille qui semble tomber. On voit ainsi que tout l'héroïsme de la gloire semble avoir disparu. Et d'ailleurs, certains critiques ont pu comparer ce portrait au passage, à le célèbre moment, hein, de Stendhal, de Waterloo. Parce qu'effectivement, on ne sait exactement où se rend cette armée en marche. Et véritablement, Et véritablement, par 1814, Meissonnier a voulu peindre l'histoire. La date de l'événement est incertaine, c'est vraiment la campagne de France, généralement. Il refuse de peindre une bataille particulière, et paradoxe du paradoxe, c'est un peintre de bataille, enfin, il commence une carrière de peintre de bataille, si l'on peut dire, et il refuse de peindre une bataille précisément. Il estimait que peindre une bataille aurait été rétrécir le champ de son imagination. Simplement, il rappelle dans ses souvenirs une citation faite par Madame de Mortemart, qui était effectivement dame d'honneur du palais, et qui se souvenait d'une remarque de Napoléon, qui au milieu de ses intimes à la Malmaison s'était laissé aller une confidence. Il arrivera un jour où je verrai le précipice, où je ne pourrai plus m'arrêter. Je m'en serai si haut que je serai pris de vertige. Et je pense que c'est vraiment ce moment de vertige, de basculement vers l'abîme, qu'a voulu représenter Meissonnier, alors que la fatalité de la défaite est inscrite sur le paysage, est inscrite dans le ciel, est inscrite sur tout le visage de la suite, sauf effectivement dans le visage de Napoléon. Meissonnier prétend être capable de percevoir le passé en chair et en os, et effectivement, par ce tableau, d'une certaine manière, il en fait la preuve. Avec toute une réflexion sur l'histoire lui-même. Alors la scène, alors, dans ses souvenirs, il dit à la fois qu'il n'a pas présenté une bataille particulière, mais en même temps la scène qu'il aurait privilégiée serait effectivement le moment où après la bataille de Laon, Napoléon revient à Soissons, mais à ce moment-là il revenait sans son état-major. Là il a bien représenté tout un tableau de portraits, on le verra tout à l'heure. C'est un moment difficile puisque après une campagne, un mois de février, avec des réussites assez spectaculaires, alors que les Français se battaient à 1 contre 3, à 1 contre 4, à Laon, effectivement, les Français avaient souffert un sérieux refaire, notamment à cause de Marmont, qui s'était laissé surprendre. Et effectivement, toutes les armées prussiennes de Blücher avaient sabré les Marie-Louise endormies en s'emparant de toute l'artillerie. Napoléon avait appris cette nouvelle, avait tenté de faire front, et puis avait réussi à sauver son armée et entamer un repli jusqu'à Soissons. Mais en même temps, il y a une accumulation de mauvaises nouvelles, provenant notamment des autres champs d'opération, et notamment de la part de Macdonald et d'Augereau. Et à ceux qui, effectivement, lui proposent de commencer à négocier la paix, Napoléon a répondu « Je suis aujourd'hui le même homme que j'étais à Wagram et à Austerlitz ». C'est justement ce décalage entre l'homme d'Austerlitz et puis une suite qui a conscience de la défaite, qui fait toute l'intensité dramatique du portrait. Et effectivement, tout accentue l'impression de chute, le chemin en pente, le système de la contre-plongée, le choix de la contre-plongée pris par Meissonnier, c'est en même temps une innovation, à un moment où le cinéma n'existait pas. Le spectateur a l'impression d'être placé à quelques pas juste devant Napoléon, ce qui accentue l'impression de décroissance. Également, l'effet de proximité du terrain, on a l'impression de voir en gros plan ces effets, enfin le passage des chevaux et des chariots d'artillerie. Et Meissonnier vraiment aspire à incarner la défaite et à la rendre non pas populaire, mais à la rendre accessible à tous. C'est-à-dire n'importe qui, y compris des enfants, vous les, d'ailleurs pour ça que le tableau est si souvent représenté, vous les mettez devant le tableau de Meissonnier, ils en sont capables de restituer des idées ou des images de la défaite. Meissonnier lui-même était passionné des questions de pédagogie, d'enseignement. Il va beaucoup s'en préoccuper sous la Troisième République. Il va conseiller notamment les pédagogues de l'époque dans la réalisation des salles de classe. Il va plaider pour l'apprentissage du dessin. Et il constatait justement, il faisait beaucoup de critiques sur l'enseignement de l'histoire de son époque. Il regrettait un apprentissage sans cœur, où les enfants sont limités à ce qu'il appelait la sécheresse des dates. Il racontait une anecdote que Meissonnier était quelqu'un de très ouvert, qui parlait à tout le monde, y compris aux enfants. Il racontait qu'il avait un peu interrogé le fils de son jardinier à Poissy, qui pouvait lui réciter des dates comme un vrai ressort, dit-il, mais qui était incapable de percevoir la philosophie des faits. On bourre les enfants de faits et de dates qui n'ont pour eux aucune signification. Ils répondent sans brochet à des chronologies que j'ignore. Et donc justement, par cette chronologie napoléonienne, 1796, 1807, 1814 et 1815, Meissonnier a voulu vraiment mettre en scène une chronologie napoléonienne. Et alors que les critiques se gaussaient de l'influence autour de ses œuvres, je ne vais pas citer, mais il y a des critiques qui montraient, qui se moquaient justement du tableau en décrivant une foule endimanchée qui défile pendant des heures, qui jette ses gros sous sur les tables de marbre, évidemment, pour entrer dans le salon, encore que l'entrée du salon était gratuite sous le Second Empire le dimanche. Et effectivement, il montre c'est tout un public hein, de cette moyenne bourgeoisie naissante, de ces visiteurs qui viennent effectivement pour voir les deux Meissoniers, hein, la bataille 1814 et puis la bataille de Solferino. Il n'empêche que c'est de cette popularité dont Meissonier était particulièrement fier. Et notamment, à travers cette œuvre, il voulait faire œuvre d'enseignement, hein, enseigner la gloire napoléonienne à un moment où les témoins oculaires commençaient à disparaître. Et c'est véritablement l'entrée dans la légende qu'il peint ici, ce qui est ma deuxième partie, avec d'abord la solitude du grand homme. La solitude de Napoléon est accentuée par l'écart qu'il éloigne de son état-major, un écart physique, puis un écart dans la couleur des chevaux, dans la robe des chevaux, mais également un écart dans l'expression des visages. Et effectivement, comme dans les tableaux précédents, on va se livrer à qui est qui. Alors le premier derrière, oui, c'est né, hein, vous l'avez reconnu, nettement identifiable, c'est en même temps une succession de portraits, chacun de ces personnages avait fait l'objet de représentations individuelles de la part de Meissonier, qui parfois en avait fait de représentations en cire rouge. On retrouve ça, effectivement, dans de nombreux catalogues qui lui sont consacrés. Donc, Ney avait donné lieu à des études, notamment les plus détaillées, les plus fouillées. Meissonier avait eu beaucoup de mal à cerner son Ney. Il avait eu beaucoup de mal à cerner le personnage. Et il avait trouvé Ney à la suite d'un voyage en chemin de fer, lorsqu'il avait rencontré un ancien officier de santé qui avait accompagné Ney à la bataille de Leipzig et qui lui avait rapporté que Ney ne mettait jamais les bras dans les manches de sa capote. Et c'est effectivement. Et Meissonier est rentré chez lui en disant voilà, j'ai mon personnage. Et c'est effectivement de cette anecdote c'est à partir de cette anecdote qu'il va construire tout son personnage. Deuxième personnage, c'est Berthier, hein, que vous voyez là. Alors qu'il est représenté en homme un peu plus fatigué, hein. Meissonier est assez décontracté, enfin il avait vécu la campagne de la retraite de Russie, donc on peut supposer hein, que le froid de l'Est de la France, au mois de février, il pouvait y résister. Berthier est beaucoup plus fatigué, il avait été blessé au début de la campagne de France par un coup de tête à la lance, on remarque les chevaux grisonnants, la tête beaucoup plus enfoncée. Et le troisième personnage, sur la même lignée, c'est un officier d'ordonnance hein, de Napoléon, Flahaut, qui est l'homme le plus jeune hein, parmi cette trinité qui suit Napoléon. Il a 29 ans à l'époque, c'était le beau Flahaut, le charmant Flahaut. On voit que Meissonier a respecté hein, cette tradition en le présentant dans une tenue encore très élégante hein, dans la débâcle. On sait que Flahaut plaisait beaucoup aux dames, notamment aux dames de la famille Bonaparte. Hein, il avait été l'amant de Caroline Murat et puis d'Hortense. Au deuxième rang, on remarque Drouot. Alors le personnage qu'on remarque le plus, hein, celui qui dort, justement, par contraste, hein, c'est le seul, avec l'éclat de son cheval gris hein, par rapport au cheval blanc de Napoléon. Et cet homme qui dort, Meissonier disait, alors peut-être pour froisser personne, hein, celui qui dort n'est pas un portrait, mais c'est plutôt toute cette représentation d'un état-major épuisé qui n'y croit plus. Et à côté, Drouot, hein, le fidèle Drouot, hein, qui devait effectivement suivre Napoléon par la suite à Sainte-Hélène. Alors Gourgaud pouvait être représenté hein, dans la deuxième file, mais effectivement, il n'y a aucune certitude hein, selon les observateurs. Je ne suis pas du tout historienne de l'art, hein, mais selon les gens qui ont travaillé sur Meissonier, les uns ont un avis sur Gourgaud, d'autres pensent que Gourgaud n'est pas représenté. En tout cas, les quatre qui sont nettement identifiables, c'est véritablement Berthier, Ney, Drouot et Flahaut. Gourgaud laisse, il y a apparemment toute une discussion entre historiens de l'art sur la figure de Drouot. Et alors, que représente effectivement cette suite, hein, notamment ceux qui sont identifiés? C'était d'une certaine manière s'inspirer hein, du mémorial, dans le mémorial, Napoléon rappelait, estimé, j'ai été plutôt abandonné que trahi, il y a plus de faiblesse autour de moi que de perfidie. Effectivement, ce ne sont pas des figures de traîtres. Hein. Alors là, je pourrais introduire peut-être une certaine nuance avec le catalogue de l'exposition Meissonier qui date de 1993, qui montrait dans ces personnages toutes les figures de la trahison à la fidélité. En fait, ce sont tout un chrono, toute une gamme de fidélités contrastées. Il n'y a pas véritablement de traîtres hein, représentés derrière Napoléon, mais des fidélités qui se sont exprimées différemment ou plus douloureusement que d'autres. Ney, effectivement, c'est plutôt la fidélité brouillonne, hein, avec une posture quand même assez fanfaronne, avec effectivement l'assurance du port et la désinvolture de la tenue. Berthier, c'est plutôt cet homme assez âgé, hein, qui semble épuisé par la campagne, c'est la fidélité déchirée par la conscience froide et lucide d'une situation sans issue. Et quand on voit la figure de Berthier, on semble, enfin, effectivement, peut-être c'est tout ce qu'on sait, hein, qui semble en même temps peser sur la scène. On a, enfin, le peintre laisse deviner, hein, sa chute au sens propre prochaine, hein, puisqu'on sait que l'année suivante, hein, il va suivre Louis XVIII sur la route de l'exil jusqu'à Ostende, et puis effectivement, il va se réfugier en Bavière, où il va mourir, hein, mystérieusement, enfin, défenestré, soit suicidé, soit il aurait été tué. Hein, là, effectivement, pareil, hein, il y a encore débat. Et Drouot, au contraire, renvoie à la fidélité tranquille, à la fidélité discrète. D'ailleurs, il apparaît au deuxième rang. Hein. Il a participé à toutes les campagnes décisives de la il a participé à toutes les batailles décisives de la campagne de France. Hein. La Rothière, Craonne, Laon. Il a suivi Napoléon à l'île d'Elbe. Il commandait la garde impériale à Waterloo. Donc, il fait vraiment le lien entre, si l'on peut dire, les deux campagnes. Enfin, la campagne de 1814 et la campagne de 1815. Et c'est vraiment en même temps le destin inverse de Ney, on voit qu'il est juste derrière Ney, et c'est le destin inverse de Ney, puisque menacé de trahison, enfin accusé de trahison sous la Restauration, il lui est acquitté en 1816, et puis fidélité jusqu'au bout, hein, puisque sollicité par les Bourbons, il va se retirer de la vie publique, se refusant de servir à ceux qui ont succédé à Napoléon. Et par sa présence, il fait le lien entre la grande armée qui reste militairement invaincu en 1814 et la glorieuse défaite de 1815. Et enfin, Flahaut incarne le lien entre les deux empires, hein, puisque Flahaut est le personnage vivant encore sous le Second Empire. Flahaut va mourir quelques jours, je crois qu'il meurt le 2 septembre 1870, donc il ne verra pas la chute du Second Empire. Il n'empêche que Flahaut incarne la fidélité chevaleresque au Premier Empire, puisqu'il va prendre la défense du roi de Rome, hein, devant la Chambre des Pairs. Il va combattre jusqu'en juillet et par la suite partir en exil en Angleterre, ne revenant en France qu'à la chute des Bourbons restaurés après 1830. Et en même temps, hein, autre interprétation, ces différents hommes peuvent interpréter chacun un moment tragique de la légende, née la campagne de Russie, hein, parfois avec lesquelles cette toile est confondue, y compris, hein, des critiques de l'époque, ce qui est étonnant, qui désigne cette toile comme campagne de Russie. Donc Ney, hein, fait immédiatement, la présence de Ney évoque immédiatement la campagne de 1812. Drouot évoque l'île d'Elbe et la première abdication. Et si Gourgaud est vraiment représenté dans la toile, il pourrait renvoyer à Sainte-Hélène, bien évidemment, puisque Gourgaud a accompagné Napoléon jusqu'en 1817. Et certains critiques, hein, de l'époque ont vu dans cette toile une œuvre apologétique, hein, parce que Meissonier était proche du pouvoir. Ils estimaient que c'était une œuvre de commande destinée à assurer la fondation dynastique. En fait, on pourrait beaucoup plus nuancer, parce que c'est vraiment sous-estimer, hein, le ressenti funèbre de la scène. Meissonier n'a pas voulu simplement représenter la fin, le crépuscule du soleil d'Austerlitz. C'est également l'annonce d'un Waterloo à venir, vers lequel semble s'acheminer de façon quasi inéluctable cette armée en marche. Et effectivement, cette armée en marche, on l'aperçoit au deuxième plan, c'est véritablement lorsque j'ai surnommé l'escorte des 100 grades, avec un contraste entre l'état-major et ceux qui continuent à suivre, hein, sans faillir, Napoléon, c'est-à-dire les moins favorisés, hein, ceux qui se retrouvent littéralement, hein, dans la boue de la France de l'Est. Et c'est vraiment ce qu'a voulu représenter Napoléon, Meissonier, hein, non pas le Napoléon du sacre, hein, le Napoléon en majesté, mais le Napoléon du peuple, tel que l'avait revisité tout le XIXe siècle. Pour Meissonier, enfin, selon cette peinture, hein, la grandeur de l'homme n'a pas besoin d'oripeaux extérieurs, hein, la redingote grise suffit, hein, pour montrer la grandeur de l'homme, alors qu'au contraire, c'est la suite de Napoléon continue à paraître comme chamarré. Ce qui expliquait, hein, c'était la perception qu'avait Meissonier de Napoléon, non pas un homme orgueilleux, comme le décrivait Thiers, mais un homme incarnant la grandeur. Pour apprécier ces hommes-là, il faut être de leur taille ou se mettre dans leur peau, ce qui montre en même temps en quoi, hein, Meissonier s'estimait. Hein. Napoléon orgueilleux, parbleu, il est évident que des gens qui sont en haut du Mont Blanc ne jugent pas les choses comme ceux qui les voient d'en bas. Je ne vois certes pas les pensées d'un Napoléon, je ne crois certes pas que les pensées d'un Napoléon soient celles d'un honnête homme ordinaire, mais on confond l'orgueil et la grandeur. Donc c'est le Napoléon du peuple qui est ici exalté, celui qui défend, par toutes les ruses de son génie et les finesses de son intelligence, la patrie envahie. Et ce sont les grands gorgés d'honneur, ravis de richesse, qui faiblissent, alors que les obscurs, les sans-grades, continuent à le suivre sans faillir. On voit effectivement dans cette ligne d'horizon se découper à la fois donc, l'armée en ligne parallèle, à la fois dans une multitude, mais une multitude uniforme. Alors on reconnaît, hein, les shakos de l'infanterie, quelques officiers à cheval. Mais effectivement, ce qui ressort, c'est l'unité de cette troupe. Autant l'escorte de l'état-major paraît extrêmement diversifiée, enfin, chaque visage a été étudié, les individualités sont fortement prononcées. Au contraire, cette armée en marche, cette armée de soldats citoyens, apparaît comme une longue chaîne, une multitude unie dans une communion nationale, une communion tournée pour la défense de la patrie, mais également dans l'amour du commandant. Et c'est ainsi que Meissonnier décrivait certaines figures, alors il faudrait effectivement être à Orsay pour voir vraiment les gros plans, certaines figures de ces 100 grades. Regardez-lui, là, le premier du rang qui se bat sans oser tourner la tête, mais qui regarde de côté l'empereur sur son cheval blanc. Et toute la scène suggère l'effroi de l'invasion, notamment par la terre ravagée, ces sillons infertiles d'un sol pourtant extrêmement riche. Et donc on voit effectivement une file continue d'hommes à l'héroïsme stoïque, une longue file qui s'étend jusqu'à l'horizon et qui est le parallèle glorieux, héroïque finalement, par rapport, qui contredit cet état-major. Bien évidemment, effectivement, dans ce Napoléon résistant à l'envahisseur, la pensée des contemporains, des hommes du Second Empire, ne pouvait manquer d'évoquer en contraste les Bourbons revenus, selon la formule classique, dans les fourgons de l'étranger. Alors, Emmanuel de Varesquiel, dans un ouvrage récent sur les 100 jours, a montré à quel point cette appréciation des fourgons, des Bourbons dans les fourgons de l'étranger était injuste. Il n'empêche que c'est l'image qu'en avait tous les 19e siècle de Bourbon, traître à la gloire nationale. Et c'est vraiment au contraire un Bourbon, un Napoléon, un défenseur de l'identité nationale, de l'unité nationale, aussi bien spirituelle que physique, qui est ici représentée. Napoléon est vraiment animé par l'énergie morale de défendre la nation jusqu'au bout, par son attitude, il défie tous les codes ordinaires de la guerre. Son obstination lui permet d'entraîner et d'incarner la force de la volonté populaire qui continue à l'escorter, qui est ici représentée par cette armée en marche. Et c'est vraiment le Napoléon dessiné par les libéraux depuis la Restauration qui est ici mis en scène, le Napoléon héritier de 89, défenseur des droits des plus modestes, contre les nobles et les prêtres, le Napoléon qu'on définit comme l'étendard des déshérités, l'emblème de la résistance butée des humbles, et c'est cette résistance butée des humbles contre le caractère inéluctable de l'invasion qui est ici mise en œuvre. D'une certaine manière, Napoléon recommence, ou de nouveau réincarne, si vous voulez, l'idéal révolutionnaire en marche, celui qui, par la puissance de sa volonté, tente de récuser toutes les fatalités, sociales comme militaires, économiques comme politiques. Et c'est la raison pour laquelle le tableau de Meissonnier a pu être utilisé, y compris dans des contextes tout à fait différents. Donc là, la patrie invadie, c'est effectivement un tract de la CGT, Sauvegardons nos retraites, qui reprend exactement ce Napoléon dans la campagne de 1814, mais effectivement non plus pour défendre la patrie envahie, mais pour défendre des droits menacés. Et donc pour finir, on voit alors Théophile Gautier dans ses commentaires de l'œuvre. Théophile Gautier avait beaucoup aimé la peinture. Il jugeait que dans cette mâle peinture palpitait l'âme de la France. Et c'est la raison peut-être pour laquelle cette peinture a été si souvent reproduite à travers tout cet espace qui sépare Napoléon de son armée. On voit vibrer effectivement l'âme française entre l'homme providentiel et les soldats citoyens. Il n'est pas inutile de montrer à quel point cette toile semble anticiper, en même temps restituer visuellement la définition qu'allait donner une vingtaine d'années plus tard Renan de la nation. Renan définissait la nation comme une âme, un principe spirituel, donc quasiment on retrouve la formulation de Théophile Gautier, et Renan définissait la nation comme, dans le passé, un héritage de gloire et de regrets à partager, une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Et là, on voit tout à fait cette image de sacrifice, d'une toile de Meissonnier qui transcrit cette image sacrificielle de la nation, parce qu'on sait tout à fait que les soldats qui suivent Napoléon vont vers une défaite quasi inéluctable. Et ce qui fait le caractère prophétique de l'œuvre, c'est que non seulement cette toile représente la campagne de France, mais elle représente certaines des défaites à venir. Lorsque Meissonnier va décrire la défaite de 1870-71, puisqu'il va la vivre, il était d'abord sur les fronts, il était à Metz au moment de la débâcle, il va revenir sur Paris, et lorsqu'il écrit au général Favre, alors quasiment à la fin de sa vie, il lui rappelle ses souvenirs communs de la France envahie. Mon cher général, ces lugubres journées ne s'oublient pas. Et effectivement, tout est là devant mes yeux en vous écrivant, jusqu'aux traces des pas de tous ces hommes dans la boue du chemin. Donc, d'une certaine manière, il retrouve pour décrire son image de la défaite, l'image de 1814. Également, hein, les scènes de la campagne de France, Reims, le plateau de Craon, le chemin des Dames, ces lieux, effectivement, n'évoquent aujourd'hui moins la campagne de France hein, qu'effectivement la Première Guerre mondiale. De même que les ornières creusées par l'artillerie dans 1814 semblent en quelque sorte anticiper la boue des tranchées de la guerre de 1914-1918. Donc exactement un siècle de distance, les mêmes espaces sont le théâtre hein, d'une même résistance acharnée du peuple français contre l'envahisseur, hein, les Prussiens de Blücher dans un cas, hein, les Allemands dans l'autre cas. Raison peut-être pour laquelle hein, cette image, et notamment la figure de Napoléon dans cette image, acquiert en 1914 une nouvelle popularité où les poilus qualifient Napoléon de premier des poilus.